La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Les sciences sociales du politique se sont beaucoup intéressées à l'État et assez peu à son absence, à l'exception bien sûr des écrits d'un anthropologue encore beaucoup lu, Pierre Clastre. Pierre Clastre, dont le travail a sûrement été l'une des influences de mon invité aujourd'hui. Il s'agit de James Scott, qui est professeur de sciences politiques et anthropologue également à l'université de Yale aux États-Unis. James Scott, bonjour. Vous êtes donc le Sterling professeur de sciences politiques à l'université de Yale et vous avez créé un département de Agrarian Studies. Vous avez travaillé sur les paysans, sur l'agriculture depuis longtemps, influencé, je le disais, par Pierre Clastre, on va y revenir, mais aussi influencé, je crois, par des travaux d'historiens sur la paysannerie, en particulier d'historiens français ou britanniques, comme E.P. Thompson. Et vous avez mené des enquêtes de terrain comme anthropologue dans une région du monde en particulier, qui est l'Asie du Sud-Est, en commençant par travailler sur la Birmanie, sur la Malaisie, et puis en étendant peu à peu vos terrains de recherche à d'autres pays. Votre travail théorique aussi est extrêmement reconnu, discuté dans les sciences sociales américaines, mais il a fallu attendre un certain temps pour que, hélas, vos ouvrages paraissent en français. Attendre, hélas, parce qu'on est très content. On a vu paraître en 2008 aux éditions Amsterdam un livre sur l'État et sur la domination, sur la question de la résistance à l'État. Et puis on a vu paraître plus récemment aux éditions du Seuil Zomia, ou l'art de ne pas être gouverné, et également aux éditions Lux, un petit éloge de l'anarchisme. Alors on va essayer, une demi-heure c'est court, mais de retracer un petit peu votre parcours de recherche et puis peut-être de s'arrêter un peu davantage sur ce livre, Zomia en particulier. Vous avez, James Scott, je le disais, commencé à travailler sur le terrain en vous intéressant à ces populations paysannes en particulier, mais très vite, vous vous êtes intéressé à la manière, au fond, dont ces gens prenaient leur distance vis-à-vis de l'État. On peut le dire de cette manière-là, au fond.
I think I should say that my interest in peasantry came from my generation.
J'ai commencé à m'intéresser à la paysannerie dans les années 60, dans le cadre de la lutte contre la guerre du Vietnam. J'ai fait des études de sciences politiques et j'ai décidé de me consacrer à l'époque à la paysannerie et aux paysans. Les paysans constituent la classe la plus importante de l'histoire du monde. Et si le mot développement a un sens, eh bien le développement doit être bénéfique aux paysans. Et ce serait mon travail que de mieux connaître la paysannerie. Par conséquent, il était nécessaire que je passe pas mal de temps dans un village paysan. C'est ce que j'ai fait en Malaisie après mon doctorat. J'ai passé près de 3 ans dans ce village en Malaisie. C'était un village qui n'était pas loin de l'État. Il s'inscrivait dans le cadre de la politique agraire nationale. Par la suite, je me suis intéressé au peuple des collines dans le sud-est asiatique. Les gens qui vivent à une altitude d'au moins 300 mètres. Et là, il s'agit d'une zone énorme, avec 100 millions d'habitants, et qui recouvre 2,5 millions de kilomètres carrés. Ça recouvre la Chine, la Thaïlande, le nord-est de l'Inde, la Birmanie, le Vietnam, etc. Tous ces peuples on fait l'objet d'études anthropologiques, de ma part notamment, et je me suis rendu compte que ce n'étaient pas des peuples qui étaient laissés pour compte par la civilisation, bien que les gens des vallées ou des basses terres ne les considèrent pas comme tels. Mais ce sont des peuples qui, sur une période de 2 millénaires, s'étaient éloignés, voire avaient fui l'État chinois, notamment la maladie, la fiscalité, ou l'armée. Voilà donc des peuples de réfugiés. Et pour revenir à Pierre Clastres, c'est lui qui, le premier, a montré que les peuples qui étaient considérés par, comme des survivants, les Guarani par exemple en Amérique du Sud, étaient en fait des gens qui étaient des cultivateurs qui avaient fui le pouvoir espagnol pour éviter l'impôt et la maladie. Et ils avaient décidé de se rebeller à l'écart de l'État. De la même façon, les peuples qui étaient des cultivateurs et qui s'étaient déplacés dans les collines se sont lancés dans une forme de culture appropriée à l'endroit qu'ils avaient décidé d'occuper et ils se sont ainsi tenus à l'écart des États jusqu'à très récemment.
Alors, vos recherches ont été l'enjeu de débats théoriques extrêmement vifs. Ça me rappelle mes années d'étudiant en sciences politiques, cette controverse entre vos travaux et le livre de Samuel Popkin, The Rational Peasant. Et j'ai le sentiment que dans l'anthropologie que vous proposiez, d'un côté, vous refusiez des approches marxistes traditionnelles ou même marxistes un petit peu plus culturelles du côté de ceux qui étaient influencés par les théories de l'hégémonie gramsciste. Et puis, d'un autre côté, évidemment, vous avez suscité des réactions comme celle de Popkin, de ceux qui voulaient introduire dans les sciences sociales des théories du choix rationnel, cet individualisme méthodologique qui était à la mode dans les années 80 dans les sciences sociales. Et vous avez, vous, essayé de chercher une voie qui n'était ni ce marxisme, ni cette théorie du choix rationnel qui nous venait des sciences économiques, mais bien l'affirmation d'une anthropologie sociale qui fait attention aux mécanismes spécifiquement politique aussi, James Scott.
Yes, I think if I were to describe myself as a Marxist, I would describe myself as a crude Marxist.
Je dirais que je suis un marxiste assez brut dans sa forme, en soulignant deux fois le mot brut. Parce que pour démarrer une analyse sociale, il faut s'intéresser de façon matérielle aux acteurs que l'on essaye de comprendre. Cela étant dit, il m'apparaît que l'erreur de la théorie du choix rationnel, c'est de partir du principe que nous sommes simplement une sorte d'ordinateur. Nous faisons des calculs, des avantages, des inconvénients, vous voyez, un peu comme le ferait un tableur, et nous faisons des décisions en faisant abstraction de la société, par exemple. Et il est évident que dans notre vie, nous ne prenons pas de décisions sans tenir compte des attentes de ceux qui sont autour de nous et qui forgent pourtant nos choix et nos comportements. Donc, le livre de Popkins, à mes yeux, n'était pas vide de sens, mais il commettait l'erreur de faire abstraction de la société et de la culture. Et peut-être ne le savez-vous pas, mais plutôt que de faire une critique de Popkin, j'ai publié quelques articles sur la culture et la religion qui dénotent ma compréhension des errements de ce qu'on a pu voir dans les différentes sociétés, notamment dans la paysannerie. Et malheureusement, je n'ai pas suffisamment tenu compte de la culture et de la religion. Et j'ai ainsi essayé de corriger le tir dans mes travaux suivants. Je suis très impressionné par E.P. Thompson, et je suis très influencé par Mark Bloch. Donc, il y a deux portraits au-dessus de mon bureau, c'est Mark Bloch et E.P. Thompson. Et on pourrait considérer qu'ils ne sont pas innocents vis-à-vis du marxisme, mais ce ne sont pas non plus des disciples aveugles de cette discipline ou de cette théorie.
Alors James Scott, vous avez particulièrement porté attention à la manière que ces acteurs sociaux que vous avez regardés de près, ces paysans dans cette zone de l'Asie du Sud-Est en particulier, ont, je le disais, de se tenir à distance de l'État, mais d'être au fond dans des situations de résistance plus ou moins explicite à l'État. Et ça vous a conduit en particulier à distinguer les formes de résistance qui étaient publiques, celles qu'on pouvait facilement voir en observant l'espace public de ces sociétés, et puis celles qui prenaient des formes plus cachées, plus détournées en quelque sorte, et qu'il était très très important de mettre en évidence pour bien mesurer au fond la défiance très grande de ces populations à l'égard de ces machines étatiques qui voulaient peu à peu, et qui ont peu à peu, parce que c'est une histoire qu'on peut écrire au passé, gagner leur domination sur ces populations.
There's a big difference historically.
Une grande différence historique quant à la façon de s'échapper ou de faire défiance à l'État. D'un point de vue historique, jusqu'à il y a, disons, 100 ans, il suffisait de se retirer dans les montagnes ou dans des zones marécageuses, des zones difficiles d'accès pour l'État. Ainsi, on pouvait éviter la présence de l'État dans sa vie. On voit ça avec des esclaves qui se sont évadés vers des zones marécageuses. Et eux, les gens dont nous parlaient, se sont réfugiés dans les collines. Et ils ont ainsi été à l'écart parce que les États traditionnels ne s'intéressaient pas à ces zones de collines. On ne pouvait pas y cultiver de choses intéressantes. Par conséquent, c'était une zone fiscalement stérile qui n'était pas gouvernement parce qu'il n'y avait rien d'intéressant sur le plan financier à en tirer. Donc, ce n'est que très récemment que les choses ont changé, parce que jusqu'alors, en se tenant ainsi à l'écart géographiquement, on était loin des pressions de l'État et des impôts, notamment. Après la Deuxième Guerre mondiale, il s'est produit plusieurs choses. Il y a eu d'abord la technologie de démolition des distances. Je m'explique. Donc, les routes tout temps, les avions, le télégraphe, le téléphone, les chars et ainsi de suite, qui permettaient aux États d'Asie du Sud-Est de projeter leur pouvoir vers les limites physiques de leur État. Et l'idéologie de l'État-nation était telle qu'il était important pour les États de maîtriser l'ensemble du territoire de l'État plutôt que simplement laisser les choses comme elles étaient. Par ailleurs, le capitalisme a découvert que ces endroits-là ne sont pas fiscalement stériles. Au contraire, on s'est aperçu qu'il y a des ressources très importantes pour l'État. Il y a des minéraux que l'on peut extraire, exploiter. Il y a du bois que l'on peut vendre aux Chinois, aux Indiens. Il peut y avoir des métaux rares qui sont précieux pour le secteur de l'électronique ou de l'aérospatial. Il y a des sites intéressants pour y bâtir des barrages. En réalité, ces zones que l'on pensait inintéressantes ou fiscalement stériles ont commencé à revêtir un grand intérêt économique, notamment dans le cadre du commerce international, donc intéressant pour l'État. Donc pour la première fois, l'idéologie de l'État-nation, les moyens matériels permettant d'établir une maîtrise militaire de ces territoires et les avantages fiscaux d'exercer cette maîtrise, tout cela a convergé. Et c'est ainsi que cette zone d'autonomie qui était laissée à ces gens était de plus en plus réduite. Elle n'a pas totalement disparu. Elle est plus grande en Birmanie qu'au Vietnam. Et elle est plus importante au Vietnam qu'elle ne l'est en Thaïlande. Donc, vous voyez, il y a des différences au fil du temps. Et évidemment, il y a les manias de la drogue qui mettent en place des zones autonomes ci et là sur les frontières. Mais grossièrement parlant, il s'agit d'une zone de liberté géographique et elle se réduit comme peau de chagrin et puis à long terme, on peut penser qu'elle va disparaître tout à fait.
Alors cette zone, c'est ce que vous avez appelé Zomia. Le nom n'est pas de vous, mais d'un historien néerlandais. Peut-être vous pouvez nous expliquer d'où vient ce mot et plus précisément encore que ce que vous avez pu dire, ce que recouvre cette zone très très grande. Vous disiez une centaine de millions d'habitants. Elle couvre, je crois, 7 pays différents. Et l'important, c'est que les frontières nationales, du coup, s'estompent en quelque sorte. En tous les cas, peut-être moins aujourd'hui qu'il y a un siècle, mais néanmoins, ça constitue votre terrain de recherche. Certains ont pu comparer votre travail sur cette zone à ce que Fernand Braudel avait pu faire sur la Méditerranée, James Scott.
Well, it's interesting that you should make the Braudel comparison.
C'est intéressant cette comparaison avec Fernand Braudel. Braudel, lui, disait que la communication maritime est plus facile que la communication terrestre. Donc, les zones qui étaient éloignées les unes des autres dans le bassin méditerranéen étaient plus proches du point de vue des contacts, des échanges, de la culture, alors qu'il y avait des zones plus proches à vol d'oiseau sur Terre. Revenons-en à Zomia. Zomia, c'est différent de la Méditerranée de Braudel. En effet, je ne dirais pas que ces gens-là partagent beaucoup de choses sur le plan religieux, culturel ou linguistique. C'est une zone qui a été créée par des gens qui s'enfuient de différents endroits, à des époques différentes, pour se trouver réfugiés tous ensemble, au même endroit. C'est pourquoi cette zone est si complexe et si difficile à étudier par les anthropologues. C'est un objet d'étude très intéressant parce que ce n'est pas un État-nation, ce n'est pas une région. C'est néanmoins une zone en dehors de l'État-nation. Cela recouvre, vous l'avez dit, 7 ou 8 États même. Et pour les gens qui connaissent l'histoire américaine, c'est un petit peu comme les Appalaches transnationales. Une zone montagneuse, une zone de collines, loin de la maîtrise de l'État. S'agissant du terme de ce néologisme Zomia, dans la langue tibéto-birmane, il y a les Chin, qui sont donc les locuteurs de cette langue, qui ont un mot pour se désigner eux-mêmes qui est « zo ». Autrement dit, le peuple à la périphérie. Et « mi » signifie « le peuple ». Donc, littéralement traduit, cela vous donne le peuple à la marge. Et Willem van Schendel, cet historien néerlandais que vous avez cité, a créé ce néologisme parce qu'il voulait un nouveau terme pour décrire un territoire qui n'avait pas fait l'objet d'une description. Moi, je me suis emparé de son terme et voilà, nous... Aujourd'hui, il y a des petits centres d'études de la Zomia et on trouve des Zomia en Amérique du Sud, en Afrique. Par conséquent, moi, j'invite ceux et celles qui s'intéressent à cette histoire de la fuite des États à s'intéresser à d'autres endroits. Il y a en Afrique, par exemple, une zone qui est en dehors de la zone du commerce de l'esclavage, en dehors de la zone du commerce méditerranéen. Et c'est une population qui ne serait pas là, sauf que cette zone est immunisée contre la captivité et le commerce des esclaves et la maîtrise des États. Donc, il y a des zones de refuge comme ça, un petit peu partout dans le monde, où les gens se sont réfugiés pour éviter le contrôle des États.
Vous dites d'emblée, c'est à la première page de ce livre, Zomia, James Scott, que votre thèse est simple, osée et polémique. Et ça caractérise, je pense, votre démarche de manière générale, votre rapport aux sciences sociales. Vous êtes un chercheur extrêmement méticuleux sur le terrain, mais vous êtes aussi quelqu'un qui n'a pas peur de vous engager au plan théorique et au plan politique. Ça caractérise aussi une manière de faire des sciences sociales qui peut-être est de moins en moins répandue à mesure que la spécialisation progresse dans ce métier.
Well, this is probably, I think,
Oui, lorsque j'étais plus jeune, j'avais des professeurs qui regardaient par-dessus mon épaule pour savoir si je répondais à leurs besoins, pour savoir si j'étais suffisamment prudent, suffisamment mesuré, nuancé, suffisamment qualifié. À mesure que j'avançais dans mes études, maintenant, j'ai perdu quelques cheveux, je suis un petit peu moins jeune, je suis peut-être devenu plus stupide, mais je me suis rendu compte qu'il est plus intéressant pour moi d'emblée faire une revendication quelque peu provocatrice, puis ensuite de me justifier. C'est une tradition française, après tout, je pense. Il s'agit d'animer le débat, il s'agit de créer un terrain de dialogue productif, d'une sorte de dispute, une sorte de joute. C'est ça qui est intéressant. Donc, je parle de manière osée, certes quelque peu exagérée, mais suffisamment vraie pour constituer le fondement d'un débat profitable et intéressant. C'est l'étudiant en sciences politiques plutôt que l'anthropologue qui parle. C'est en effet ma démarche.
Mais alors justement, comment vous qualifieriez votre position dans cet espace public des sciences sociales et plus largement peut-être de la démocratie américaine ? Vous êtes à la fois au centre, en étant professeur de sciences politiques à Yale, en étant membre de l'Académie des arts et des sciences des États-Unis, et en même temps, vous êtes professeur à Yale, et puis vous avez une ferme où vous élevez des moutons à quelques kilomètres de là, depuis maintenant plus de 30 ans, et vous écrivez, par exemple, un petit éloge de l'anarchisme. Comment êtes-vous parvenu à concilier tout ça, au fond, et à affirmer vos propositions et cette façon que vous avez résumée de toujours vouloir lancer le débat ?
On arrive sur un terrain personnel que j'ai tendance à éviter, pourtant. Je suis d'origine Quaker, et comme vous le savez sans doute, les Quakers considèrent que si l'on définit une, si l'on se bat pour une bonne cause et qu'on est interpellé, eh bien, c'est un honneur pour les Quakers. Par conséquent, les Quakers font montre d'un certain courage civique. Et en tant que personnage de gauche, c'est vrai qu'accepter un poste d'enseignant à Yale, ça constitue un dilemme éthique pour moi. Mais j'ai rationalisé mon approche en me disant que je me servirais de cette institution élitiste pour des causes qu'elle ne reconnaîtrait pas et qu'elle condamnerait peut-être. Par conséquent, j'ai toujours été déterminé à utiliser mon poste, ma stature à Yale, pour promouvoir des idées et permettre aux autres de promouvoir des idées que l'on ne considère pas comme étant associées à celles d'une institution élitiste. C'est vrai que ainsi je peux avoir le meilleur des deux mondes en quelque sorte, et je suis tout à fait conscient qu'il s'agit un peu d'équilibrisme, il y a de la contradiction là-dedans, mais c'est vrai que j'ai des moutons, maintenant j'ai même du bétail pour tout vous dire, et je m'aperçois que avoir une exploitation agricole, si petite soit-elle, cela m'apporte une certaine quiétude cérébrale, et il faut que je me dépense physiquement. Et cela me ressource. C'est davantage cela plutôt qu'une autre responsabilité sur mes épaules.
Je le disais, James Scott, l'autre livre de vous qui est apparu en français, publié chez Lux il y a quelque temps, c'est le titre français, Un petit éloge de l'anarchisme. Est-ce que c'est comme ça que vous qualifieriez politiquement ? Vous êtes un chercheur en sciences sociales et un anarchiste à la fois ?
C'est un petit éloge.
Two cheers rather than three cheers for
en anglais, c'est two cheers et pas three cheers. Donc deux applaudissements au lieu de trois, selon l'expression idiomatique anglaise. Mais je suis quelque peu anarchiste. Les anarchistes de générations précédentes pensaient que la science et la technologie pouvaient être améliorées pour se défaire de la politique. Par ailleurs, ils pensaient que l'on peut se défaire de l'État. Malheureusement, je ne pense pas que cela soit possible. Donc moi, Je ne me considère pas comme un véritable anarchiste, mais la perspective anarchiste d'autonomie et de liberté par rapport aux institutions, ça permet d'examiner ces institutions d'un point de vue tout à fait intéressant et de façon productive. C'est un petit peu comme si on plissait les yeux en tant qu'anarchiste pour regarder les institutions de manière différente. Je vais vous donner un exemple pratique de cela. Je commence par ce que j'appelle la loi de Scott de la calisthénique anarchiste. J'ai travaillé dans une ferme en Allemagne de l'Est en 1981 pour améliorer mon allemand. Je suis allé à Neubrand en Allemagne de l'Est et là, donc je travaillais à la ferme et il y avait un seul petit train qui me ramenait au village après avoir travaillé à la ferme, et je ne voulais pas manquer ce train. Par conséquent, j'étais à la gare une demi-heure avant l'arrivée du train. À chaque fois, donc là, c'était au mois d'août, hein, peut-être début septembre, en 1991, pardon, et il y avait un feu rouge, et il y avait 60 Allemands qui attendaient au coin de la rue pour pouvoir avancer, mais c'était l'Allemagne de l'Est, dans la soirée, aucune voiture, pas de circulation en vue, et 60 personnes attendaient que le feu change de couleur, n'osant pas traverser. Donc, c'est la loi de Scott, de la calisthénique anarchiste, qui est la suivante. Un jour dans votre vie, prenons le mouvement des droits civiques, ou prenons la désobéissance civile, un jour dans votre vie, on va vous appeler pour enfreindre une loi importante. Il faut être prêt. Il faut être en forme. Il faut se préparer. Ainsi, tous les deux ou trois jours, vous devez vous entraîner à enfreindre deux ou trois petites lois pour vous mettre en jambe et pour que vos muscles d'anarchiste soient prêts à enfreindre une grande loi. C'est ainsi que je dis que les lois, les règles et les feux rouges ne sont pas si importants, pas importants du moins, au point de nous empêcher de réfléchir comme bon nous semble.
Juste très rapidement, parce que l'émission arrive à son terme, James Scott, vous trouvez que, de manière générale, les sciences sociales se sont trop focalisées, trop intéressées à l'État et n'ont pas assez regardé ces manières de le contester. Et je ne parle pas là des sociétés d'Asie du Sud sur lesquelles vous avez travaillé, mais je parle des sociétés en Europe ou aux États-Unis, par exemple.
In fact... The Amsterdam book, Domination and the Arts of Resistance.
Le livre qui a été traduit par les éditions Amsterdam sur la domination et les arts de la résistance.
C'est ça. That much of it was devoted to
une bonne part de cet ouvrage est consacré à ce que j'appelle l'infrapolitique. Autrement dit, l'activité de nature politique, mais qui n'est pas déclarée comme telle. Par exemple, prenons la désertion. Pas la mutinerie, qui est un acte public, mais la désertion. Il y a beaucoup de choses qui ont été transformées par la désertion, ou par le braconnage, ou par le fait de squatter un territoire, d'occuper de manière illégale un territoire ou une propriété. Il y a pas mal de politiques qui s'opèrent au niveau infrapolitique, où les choses ne sont pas publiques, ne sont pas ouvertes, ce n'est pas visible, ce n'est pas un mouvement social de nature publique, mais ça a des conséquences politiques considérables.
Merci beaucoup, James Scott. Je suis très heureux d'avoir pu vous accueillir à la suite dans les idées. Je rappelle le titre de ce livre dont nous avons surtout parlé, Zomia ou l'art de ne pas être gouverné. Il a été publié il y a quelques mois aux éditions du Seuil. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché d'émission. Geneviève Méric, merci à Xavier Combes pour sa traduction des propos de James Scott. À la technique aujourd'hui, Clément Daté, à la réalisation, Ghislaine David. C'est Jean Deloisy que l'on retrouve dans quelques instants sur l'antenne de France Culture.